81, présage de sa mort. Cependant, des prodiges manifestes annoncèrent à César le meurtre qui allait avoir lieu. Quelques mois auparavant, les colons, conduits à Capoue en vertu de la loi Julia, voulant partir des maisons de campagne, détruisirent des tombeaux très anciens, et avec d'autant plus d'empressement qu'ils découvraient, en les explorant, une quantité de vases d'un travail ancien. Ils trouvèrent dans un tombeau où était, dit-on, enseveli Capis, fondateur de Capoue, une tablette de bronze qui portait, en caractère grec et dans cette langue, une inscription ainsi conçue. « Quand on aura découvert les ossements de Capis, un descendant d'Iule périra de la main de ses proches et sera bientôt vengé par les malheurs de l'Italie. » Pour qu'on ne croie pas que c'est là une fable inventée à plaisir, je citerai mon autorité, Cornelius Balbus, un ami très intime de César. Quelques jours avant sa mort, ce dernier apprit que les troupes de chevaux qu'il avait consacrées aux dieux avant de passer le Rubicon et qu'il avait laissé errer sans maître refusaient toute espèce de nourriture et versaient d'abondantes larmes. De son côté, Larus Pice Spurina l'avertit pendant un sacrifice de prendre garde à un danger qui le menacerait jusqu'aux ides de mars. La veille de ces mêmes ides, un roitelet qui se dirigeait, portant une petite branche de laurier, vers la curie de Pompée, fut poursuivi et mis en pièces par des oiseaux de différentes espèces, sortis d'un bois voisin. Enfin, la nuit qui précéda le jour du meurtre, il lui sembla pendant son sommeil qu'il volait au-dessus des nuages et une autre fois qu'il mettait sa main dans celle de Jupiter. Sa femme Calpurnie rêva aussi que le faîte de sa maison s'écroulait, et qu'on perçait de coups son époux dans ses bras, et les portes de la chambre s'ouvrirent brusquement d'elles-mêmes. Tous ces présages, et le mauvais état de sa santé, le firent hésiter longtemps s'il ne resterait pas chez lui, et ne remettrait pas un autre jour ce qu'il avait à proposer au Sénat. Mais Decimus Brutus, l'ayant exhorté à ne pas faire attendre en vain les sénateurs, qui étaient réunis en grand nombre depuis longtemps, il sortit vers la cinquième heure. Sur son chemin, un inconnu lui présentait un mémoire où était dévoilée toute la conjuration. César le prit, et le mêla avec d'autres qu'il tenait dans sa main gauche, comme pour les lire bientôt. Plusieurs victimes, qu'on immola ensuite, ne donnèrent que des signes défavorables, mais, bravant ses scrupules religieux, il entra dans le Sénat, et dit en raillant, à Spurina, qu'il s'inscrivait en faux contre ses prédictions, puisque les ides de mars étaient venues sans amener aucun malheur. « Oui, » répondit la ruspice. Elles sont venues, mais ne sont pas encore passées. » 82. Il est tué dans le Sénat. Lorsqu'il s'assit, les conjurés l'entourèrent, sous prétexte de lui rendre leur devoir. Tout à coup, Tullius Cimbert, qui s'était chargé du premier rôle, s'approcha davantage, comme pour lui demander une faveur. Et César, se refusant à l'entendre et lui faisant signe de remettre sa demande à un autre temps, il le saisit par la toge aux deux épaules. « C'est là de la violence !» s'écrie César. Et dans le moment même, l'un des cascas, auquel il tournait le dos, le blesse, un peu au-dessous de la gorge. César, saisissant le bras qu'il a frappé, le perd de son poinçon, puis il veut s'élancer, mais une autre blessure l'arrête. Il voit bientôt des poignards levés sur lui de tous côtés. Alors, il s'enveloppe la tête de sa toge, et de la main gauche, il en abaisse en même temps un des pans sur ses jambes, afin de tomber plus décemment, la partie inférieure de son corps étant ainsi couverte. Et il fut ainsi percé de 23 coups. Au premier seulement, il poussa un gémissement, sans dire une parole. Toutefois, quelques écrivains rapportent que, voyant s'avancer contre lui Marcus Brutus, il dit en grec. « Et toi aussi, mon fils ?» Quand il fut mort, tout le monde s'enfuit, et il resta quelque temps étendu par terre. Enfin, trois esclaves le rapportèrent chez lui sur une litière, d'où pendait un de ses bras. De tant de blessures, il n'y en avait de mortelles, au jugement du médecin, Antistius, que la seconde, qui lui avait été faite à la poitrine. L'intention des conjurés était de traîner son cadavre dans le Tibre, de confisquer ses biens et d'annuler ses actes. Mais la crainte qu'ils eurent du consul Marc-Antoine et de Lépide, maître de la cavalerie, les fit renoncer à ce dessein. 83. Son testament. Son testament fut donc ouvert sur la demande de Lucius Pison, son beau-père, et on en fit la lecture dans la maison d'Antoine. César l'avait fait aux dernières ides de septembre, dont sa propriété de Lavicum. il avait ensuite confié à la grande Vestale. Quintus Tubéron rapporte que, dans tout ce qu'il écrivit depuis son premier consulat jusqu'au commencement de la guerre civile, il laissait à Pompée son héritage et qu'il avait lu cette clause devant une assemblée de soldats. Mais dans les derniers, il nommait trois héritiers. C'étaient les petits-fils de ses sœurs, à savoir Gaius Octavius pour les trois quarts et Lucius Pinarius avec Quintus Pedius pour l'autre part. Par une dernière clause, il adoptait Gaius Octavius et lui donnait son nom. Il désignait parmi les tuteurs de son fils, pour le cas où il en naîtrait un, plusieurs de ceux qu'il frappèrent. Décimus Brutus était aussi inscrit dans la seconde classe de ses héritiers. Enfin, il léguait au peuple romain ses jardins près du Tibre et 300 sesterces par tête. 84. Ses funérailles. Le jour de ses funérailles étant fixé, on lui éleva un bûcher dans le champ de Mars, près du tombeau de Julie, et l'on construit devant la tribune aux harangues une chapelle dorée, sur le modèle du temple de Vénus Génétrix. On y plaça un lit d'ivoire couvert de pourpre et d'or, et à la tête de ce lit, un trophée avec le vêtement qu'il portait quand il fut tué. La journée ne paraissait pas devoir suffire au défilé de tous ceux qui voulaient apporter des offrandes. On déclara que chacun irait, sans observer aucun ordre, et par le chemin qui lui plairait, déposer ses dons au champ de Mars. Dans les jeux funèbres, on chanta des vers propres à exciter la piété pour le mort et la haine contre ses meurtriers, vers qui étaient tirés du jugement des âmes, du Pacuvius par exemple. Les avais-je épargnés pour tomber sur leur cou? Et des passages de l'Électre d'Attilius, qui pouvaient offrir les mêmes allusions. En guise d'éloge funèbre, le consul Antoine fit lire par un héros le sénatule consulte qui décernait à César tous les honneurs divins et humains, puis le serment par lequel tous les sénateurs s'étaient engagés à défendre la vie du seul César. Il ajouta fort peu de mots à cette lecture. Des magistrats en fonction ou sortis de charge portèrent le lit au forum, devant la tribune aux harangues. Les uns voulaient qu'on brûlât le corps dans le sanctuaire de Jupiter Capitolin, les autres dans la curie de Pompée. Tout à coup, deux hommes, portant un glaive à la ceinture et à la main deux javelots, y mirent le feu avec des torches ardentes. Et aussitôt, chacun d'y jeter du bois sec, les sièges et les tribunaux des magistrats, enfin, tout ce qui se trouvait à sa portée. Bientôt après, des joueurs de flûte et des acteurs qui avaient revêtu pour cette cérémonie les ornements consacrés au pope triomphal s'en dépouillèrent, les mirent en pièces et les jetèrent dans les flammes. Les vétérans légionnaires y jetèrent en même temps les armes dont ils s'étaient parés pour les funérailles. Et même un grand nombre de matrones, les bijoux qu'elles portaient, avec les bulles et les prétextes de leurs enfants. Une foule d'étrangers prirent part à ce grand deuil public, manifestèrent à qui mieux leur douleur, chacun à la manière de son pays. On remarqua surtout les Juifs, lesquels veillèrent même plusieurs nuits de suite auprès de son tombeau. 85. Fureur du peuple contre ses meurtriers. Le peuple, aussitôt après les funérailles, courut avec des torches aux maisons de Brutus et de Cassius, et il n'en fut repoussé qu'avec peine. Sur sa route, cette foule tumultueuse rencontra Helvius Cinna, et poursuivie d'une erreur de nom, le prenant pour Cornelius, à qui elle en voulait pour avoir prononcé la veille un discours véhément contre César, elle le tua et promena sa tête au bout d'une pique. Plus tard, on éleva dans le forum une colonne de marbre de Numidie, d'un seul bloc et de près de 20 pieds, avec cette inscription « Au père de la patrie ». Et ce fut pendant longtemps un usage d'y offrir des sacrifices, d'y former des vœux et d'y régler certains différends, en jurant par le nom de César. 86. Son mépris de la vie, sa sécurité. Quelques-uns des siens eurent l'impression que César ne voulait pas vivre davantage, et que cette indifférence qui lui venait de sa mauvaise santé lui avait fait mépriser les avertissements de la religion et les conseils de ses amis. Il en est aussi qui pense que, rassuré par le dernier senatus consulte et par le serment prêté à sa personne, il avait renvoyé à une garde espagnole qui le suivait partout, l'épée à la main. D'autres, au contraire, lui prêtent cette pensée qu'il aimait mieux succomber une fois au complot de ses ennemis que de les craindre toujours. Selon d'autres encore, il avait coutume de dire que la République était plus intéressée que lui-même à sa conservation, qu'il avait acquis depuis longtemps assez de gloire et de puissance, mais que la République, s'il venait à périr, ne jouirait d'aucun repos et irait s'abîmer dans les effroyables maux des guerres civiles. 87, ses souhaits pour une mort prompte. Mais ce dont on convient assez généralement, c'est que sa mort fut à peu près telle qu'il l'avait désirée. Car, lisant un jour dans Xénophon que Cyrus avait donné, pendant sa dernière maladie, quelques ordres pour ses funérailles, il témoigna son aversion pour une mort aussi lente, et souhaita que la sienne fût prompte et subite. La veille même, le jour où il périt, à un souper chez Marcus Lepidus, un convive ayant soulevé cette question, « Quelle est la fin la plus désirable ?»« Une mort brusque et inopinée, » répondit César. 88. Son apothéose. Il périt dans la 56e année de son âge, et fut mis au nombre des dieux, non seulement par le décret qui ordonna son apothéose, mais aussi par la foule, persuadée de sa divinité. Pendant les premiers jeux que donna pour lui, après son apothéose, son héritier Auguste, une comète qui se levait vers la 11e heure brilla durant 7 jours de suite, et l'on crut que c'était l'âme de César reçue dans le ciel. C'est pour cette raison qu'il le représentait avec une étoile au-dessus de la tête. On fit murer la curie, où il avait été tué. Les Ides de Mars furent appelés jour parricide, et il fut défendu pour jamais d'assembler les sénateurs ce jour-là. 89. Destinée commune à ses meurtriers. Presque aucun de ces meurtriers ne lui survécut plus de 3 ans, et ne mourut de mort naturelle. Condamnés tous, ils périrent tous, chacun d'une manière différente. Ceux-ci dans des naufrages, ceux-là dans des combats. Il y en eut même qui se percèrent du même poignard dont ils avaient frappé César.